Livre second, des voyages des utopiens. Lorsqu'un citoyen désire aller voir un ami qui demeure dans une autre ville, ou veut simplement se donner le plaisir d'un voyage, les Sifograntes et les Tranibores consentent volontiers à son départ s'il n'y a pas d'empêchement valable. Les voyageurs se réunissent pour partir ensemble. Ils sont munis d'une lettre du prince qui certifie le congé et fixe le jour du retour. On leur fournit une voiture et un esclave qui soigne et conduit l'attelage. Mais d'habitude, à moins qu'ils n'aient des femmes avec eux, les voyageurs renvoient la voiture comme un embarras. Ils ne se pourvoient de rien pendant la route, car rien ne peut leur manquer, attendu qu'ils sont partout chez eux. Si un voyageur passe plus d'un jour en quelque lieu, il y travaille de son état et reçoit le plus obligeant accueil des ouvriers de sa profession. Celui qui, de son propre mouvement, se permet de franchir les limites de sa province, est traité en criminel. Pris sans le congé du prince, il est ramené comme un déserteur et sévèrement puni. En cas de récidive, il perd la liberté. S'il prend envie à quelques citoyens de faire une excursion dans la campagne qui dépend de sa ville, il le peut avec le consentement de sa femme et de son père de famille. Mais il faut qu'il achète et paye sa nourriture en travaillant avant le dîner et le souper autant qu'on le fait dans les lieux où il s'arrête. Sous cette condition, tout individu a le droit de sortir de la ville et de parcourir le territoire adjacent parce qu'il est aussi utile dehors que dedans. Vous voyez que, en utopie, l'oisiveté et la paresse sont impossibles. On n'y voit ni taverne, ni lieu de prostitution, ni occasion de débauche, ni repère caché, ni assemblée secrète. Chacun, sans cesse exposé au regard de tous, se trouve dans l'heureuse nécessité de travailler et de se reposer, suivant les lois et les coutumes du pays. L'abondance en toutes choses est le fruit de cette vie pure et active. Le bien-être se répand également sur tous les membres de cette admirable société. La mendicité et la misère y sont des monstres inconnus. J'ai déjà dit que chaque ville d'Utopie envoyait 3 députés au Sénat d'Amoroth. Les premières séances du Sénat sont consacrées à dresser la statistique économique des diverses parties de l'île. Dès qu'on a vérifié les points où il y a trop et les points où il n'y a pas assez, l'équilibre est rétabli en comblant les vides des cités malheureuses par la surabondance des cités plus favorisées. Cette compensation est gratuite. La ville qui donne ne reçoit rien en retour de la part de celle qu'elle oblige, et réciproquement, elle reçoit gratuitement d'une autre ville à laquelle elle n'a rien donné. Ainsi, la République utopienne tout entière est comme une seule et même famille. L'île est toujours approvisionnée pour 2 ans, dans l'incertitude d'une bonne ou mauvaise récolte pour l'année suivante. On exporte à l'extérieur les denrées superflues, telles que blé, miel, laine, lin, bois, matière à teinture, peau, cire, suif, animaux. La 7e partie de ces marchandises est distribuée aux pauvres du pays où l'on exporte. Le reste est vendu à un prix modéré. Ce commerce fait entrer en Utopie non seulement des objets de nécessité, le fer par exemple, mais encore une masse considérable d'or et d'argent. Depuis le temps que les Utopiens pratiquent ce négoce, ils ont accumulé une quantité incroyable de richesses. C'est pourquoi il leur est indifférent aujourd'hui de vendre au comptant ou à terme. Ordinairement, ils prennent des billets en paiement, mais ils ne se fient pas aux signatures individuelles. Ces billets doivent être revêtus des formes légales et garantis sur la foi et le sceau de la ville qui les accepte. Le jour de l'échéance, la ville signataire exige le remboursement des particuliers débiteurs. L'argent est déposé dans le trésor public et on le fait valoir jusqu'à ce que les créanciers utopiens le réclament. Ceux-ci ne réclament presque jamais le paiement de la dette entière. Ils croiraient commettre une injustice en ôtant à un autre une chose dont il a besoin et qui leur est à eux inutile. Cependant, il y a des cas où ils retirent toute la somme qui leur est due. Cela arrive quand ils veulent s'en servir pour prêter à une nation voisine ou pour entreprendre une guerre. Dans ce dernier cas, ils ramassent toutes leurs richesses pour s'en faire comme un rempart de métal contre les dangers pressants et imprévus. Ces richesses sont destinées à engager et à solder copieusement des troupes étrangères, car le gouvernement d'Utopie aime mieux exposer à la mort les étrangers que les citoyens. Il sait aussi que l'ennemi le plus acharné se vend quelquefois, si le prix de la vente est à la hauteur de son avarice. Il sait qu'en général, l'argent est le nerf de la guerre, soit pour acheter les trahisons, soit pour combattre à force ouverte. À ces fins, les utopiens ont toujours à leur disposition d'immenses trésors. Mais loin de les conserver avec une espèce de culte religieux, comme font les autres peuples, ils les emploient à des usages que j'ose à peine vous faire connaître. Je crains fort de vous trouver incrédule, car je vous avoue franchement que si je n'avais pas vu la chose, je ne la croirais pas sur parole. Cela est très naturel. Plus les coutumes étrangères sont opposées aux nôtres, moins nous sommes disposés à y croire. Néanmoins, l'homme sage, qui juge sainement, sachant que les utopiens pensent et font tout le contraire des autres peuples, ne sera pas surpris qu'ils emploient l'or et l'argent tout différemment que nous. En utopie, l'on ne se sert jamais d'espèces monnayées dans les transactions mutuelles. On les réserve pour les événements critiques dont la réalisation est possible, quoique très incertaine. L'or et l'argent n'ont pas en ce pays plus de valeur que celle que la nature leur a donnée. L'on y estime ces deux métaux bien au-dessous du fer, aussi nécessaire à l'homme que l'eau et le feu. En effet, l'or et l'argent n'ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété dont la privation soit un inconvénient naturel et véritable. C'est la folie humaine qui a mis tant de prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes profondeurs comme des productions inutiles et vaines, tandis qu'elle expose à découvert l'air, l'eau, la terre et tout ce qu'il y a de bon et de réellement utile. Les utopiens ne renferment pas leurs trésors dans des tours ou dans d'autres lieux fortifiés et inaccessibles. Le vulgaire, par une folle malice, pourrait soupçonner le prince et le sénat de tromper le peuple et de s'enrichir en pillant la fortune publique. L'on ne fabrique, avec l'or et l'argent, ni vases, ni ouvrages artistement travaillés. Car s'il fallait un jour les fondre pour payer l'armée en cas de guerre, ceux qui auraient mis leur affection en leurs délices dans ces objets d'art et de luxe éprouveraient, en les perdant, une amère douleur. Afin d'obvier à ces inconvénients, les utopiens ont imaginé un usage parfaitement en harmonie avec le reste de leurs institutions, mais en complet désaccord avec celle de notre continent, où l'or est adoré comme un dieu, recherché comme le souverain bien. Ils mangent et boivent dans de la vaisselle d'argile ou de verre, de forme élégante, mais de minime valeur. L'or et l'argent sont destinés aux plus vils usages, soit dans les hôtels communs, soit dans les maisons particulières. On en fait même des vases de nuit. L'on en forge aussi des chaînes et des entraves pour les esclaves, et des marques d'opprobre pour les condamnés qui ont commis des crimes infâmes. Ces derniers ont des anneaux d'or aux doigts et aux oreilles, un collier d'or au cou, un frein d'or à la tête. Ainsi, tout concourt à tenir l'or et l'argent en ignominie. Chez les autres peuples, la perte de la fortune est une souffrance aussi cruelle qu'un déchirement d'entrailles. Mais quand on enlèverait à la nation utopienne toutes ces immenses richesses, personne ne semblerait avoir perdu un sou. Les utopiens recueillent des perles sur le bord de la mer, des diamants et des pierres précieuses dans certains rochers. Sans aller à la recherche de ces objets rares, ils aiment à polir ceux que le hasard leur présente, afin d'en parer les petits enfants. Ces derniers sont d'abord tout fiers de porter ces ornements. Mais, à mesure qu'ils grandissent, ils s'aperçoivent bientôt que ces frivolités ne conviennent qu'aux enfants les plus jeunes. Alors ils n'attendent pas l'avertissement paternel. Ils se débarrassent de cette parure d'eux-mêmes et par amour-propre. C'est ainsi que chez nous les enfants, en grandissant, délaissent peu à peu boules et poupées. Ces institutions, si différentes de celles des autres peuples, gravent dans le cœur de l'utopien des sentiments et des idées entièrement contraires aux nôtres. Je fus singulièrement frappé de cette différence à l'occasion d'une ambassade anémolienne. Les envoyés d'Anémolie vinrent à Amoroth pendant que j'y étais. Et comme ils devaient traiter d'affaires de haute importance, le Sénat s'était réuni dans la capitale et les y attendait. Jusqu'alors, les ambassadeurs des nations limitrophes, qui étaient venus en Utopie, y avaient mené le train le plus simple et le plus modeste, parce que les mœurs utopiennes leur étaient parfaitement connues. Ils savaient que le luxe de la parure n'était là d'aucune valeur, que la soie y était méprisée et l'or une chose infâme. Mais les Anémoliens, beaucoup plus éloignés de l'île, avaient eu fort peu de relations avec elle. Apprenant donc que les habitants y étaient vêtus d'une façon grossière et uniforme, ils se persuadèrent que cette extrême simplicité était causée par la misère. Et, plus vaniteux que sages, ils résolurent de se présenter avec une magnificence digne d'envoyés célestes et de frapper les yeux de ces misérables insulaires par l'éclat d'un faste éblouissant. Les trois ministres, qui étaient de grands seigneurs en Anémolie, firent donc leur entrée suivie de 100 personnes vêtues d'habits de soie de diverses couleurs. Les ambassadeurs eux-mêmes avaient un costume riche et somptueux. Ils portaient un habit de drap d'or, des colliers et des boucles d'oreilles en or, des anneaux d'or aux doigts et des garnitures à leurs chapeaux étincelantes de pierreries. Enfin, ils étaient couverts de ce qui fait en utopie le supplice de l'esclave, la marque honteuse de l'infamie, le jouet du petit enfant. C'était chose plaisante à voir que l'orgueilleuse satisfaction des ambassadeurs et des gens de leur suite, comparant le luxe de leur parure à la mise simple et négligée du peuple utopien répandu en foule sur leur passage. D'un autre côté, ils n'étaient pas moins curieux d'observer, à l'attitude de la population, combien ces étrangers se trompaient dans leur attente, combien ils étaient loin d'exciter l'estime et les honneurs qu'ils s'étaient promis. À part un petit nombre d'utopiens qui avaient voyagé à l'extérieur pour de graves motifs, tous les autres regardaient en pitié cet appareil somptueux. Ils saluaient les plus bas valets du cortège, les prenant pour les ambassadeurs, et laissaient passer les ambassadeurs sans y faire plus attention qu'à des valets, car ils les voyaient chargés de chaînes d'or comme leurs esclaves. Les enfants, qui avaient déjà quitté les diamants et les perles et qui les apercevaient au chapeau des ambassadeurs, poussaient leur mère en disant « Vois donc ce grand fripon qui porte encore des pierreries, comme s'il était tout petit !» Et les mères de répondre sérieusement « Taisez-vous, mon fils, c'est, je pense, un des bouffons de l'ambassade !» Plusieurs critiquaient la forme de ces chaînes d'or. « Elles sont, disaient-ils, beaucoup trop minces, on pourrait les briser facilement. De plus, elles ne sont pas serrées assez étroitement, l'esclave s'en débarrasserait s'il voulait, et il pourrait s'enfuir. » Deux jours après leur entrée dans Amorot, les ambassadeurs comprirent que les utopiens méprisaient l'or autant qu'on l'honorait dans leur pays. Ils eurent l'occasion de remarquer sur le corps d'un esclave plus d'or et d'argent que n'emportait toute leur escorte. Alors ils rabattirent de leur fierté, et honteux de la mystification qu'ils avaient subie, ils dépouillèrent en hâte le faste qu'ils avaient si orgueilleusement déployé. Les relations plus intimes qu'ils lièrent en utopie leur apprirent ensuite quels étaient les principes et les mœurs de ses habitants. Les utopiens s'étonnent que des êtres raisonnables puissent se délecter de la lumière incertaine et douteuse d'une perle ou d'une pierre, tandis que ces êtres peuvent jeter les yeux sur les astres et le soleil. Ils regardent comme fou celui qui se croit plus noble et plus estimable parce qu'il est couvert d'une laine plus fine, laine coupée sur le dos d'un mouton, et que cet animal a porté le premier. Ils s'étonnent que l'or, inutile de sa nature, ait acquis une valeur factice tellement considérable qu'il soit beaucoup plus estimé que l'homme, quoique l'homme seul lui ait donné cette valeur et le fasse servir à ses usages, suivant son caprice. Il s'étonne aussi qu'un riche, à intelligence de plomb, stupide comme la bûche, également sot et immoral, tienne sous sa dépendance une foule d'hommes sages et vertueux, parce que la fortune lui a abandonné quelques piles d'écus. Cependant, disent-ils, la fortune peut le trahir. Et la loi, qui aussi bien que la fortune précipite souvent du fait dans la boue, peut lui arracher son argent et le faire passer aux mains du plus ignoble fripon de ses valets. Alors ce même riche se trouvera très heureux de passer lui aussi, en compagnie de son argent et comme par-dessus le marché, au service de son ancien valet. Il est une autre folie que les utopiens détestent encore plus, et qu'ils conçoivent à peine. C'est la folie de ceux qui rendent des honneurs presque divins à un homme parce qu'il est riche, sans être néanmoins ni ses débiteurs ni ses obligés. Les insensés savent bien pourtant quelle est la sordide avarice de ces Crésus égoïstes. Ils savent bien qu'ils n'auront jamais un sou de tout leur trésor. Nos insulaires puisent de pareils sentiments partie dans l'étude des lettres, partie dans l'éducation qu'ils reçoivent au sein d'une république dont les institutions sont formellement opposées à tous nos genres d'extravagance. Il est vrai qu'un fort petit nombre est affranchi des travaux matériels et se livre exclusivement à la culture de l'esprit. Ce sont, comme je l'ai déjà dit, ceux qui, dès l'enfance, ont manifesté un naturel heureux, un génie pénétrant, une vocation scientifique. Mais on ne laisse pas pour cela de donner une éducation libérale à tous les enfants. Et la grande masse des citoyens, hommes et femmes, consacrent chaque jour leurs moments de liberté et de repos à des travaux intellectuels. Les utopiens apprennent les sciences dans leur propre langue. Cette langue est riche, harmonieuse, fidèle interprète de la pensée. Elle est répandue, plus ou moins altérée, sur une vaste étendue du globe. Jamais avant notre arrivée, les utopiens n'avaient entendu parler de ces philosophes si fameux dans notre monde. Cependant, ils ont fait à peu près les mêmes découvertes que nous, en musique, dialectique, arithmétique et géométrie. S'ils égalent presque en tout nos anciens, ils sont bien inférieurs aux dialecticiens modernes, car ils n'ont encore inventé aucune de ces règles subtiles de restriction, amplification, supposition que l'on enseigne à la jeunesse dans les écoles de logique. Ils n'ont pas approfondi les idées secondes. Et quant à l'homme en général ou universel, suivant le jargon métaphysique, ce colosse le plus immense des géants que l'on nous fait voir ici, personne en utopie n'a pu l'apercevoir encore. En revanche, ils connaissent d'une manière précise le cours des astres et les mouvements des corps célestes. Ils ont imaginé des machines qui représentent avec une grande exactitude les mouvements et les positions respectives du soleil, de la lune et des astres visibles au-dessus de leur horizon. Quant aux haines et aux amitiés des planètes et à toutes les impostures de la divination par le ciel, ils n'y songent pas, même en rêve. Ils savent prédire, à des signes confirmés par une longue expérience, la pluie, le vent et les autres révolutions de l'air. Ils ne forment que des conjectures sur les causes de ces phénomènes, sur le flux et le reflux de la mer, sur la salaison de cet immense liquide, sur l'origine et la nature du ciel et du monde. Leur système coïncide en certains points avec ceux de nos anciens philosophes. En d'autres points, ils s'en écartent. Mais dans les nouvelles théories qu'ils ont imaginées, il y a dissidence chez eux comme chez nous. En philosophie morale, ils agitent les mêmes questions que nos docteurs. Ils cherchent dans l'âme de l'homme, dans son corps et dans les objets extérieurs, ce qui peut contribuer à sa félicité. Ils se demandent si le don de bien convient indifféremment à tous les éléments du bonheur matériel et intellectuel, ou seulement au développement des facultés de l'esprit. Ils dissertent sur la vertu et le plaisir, mais la première et la principale de leurs controverses a pour objet de déterminer la condition unique ou les conditions diverses du bonheur de l'homme. Peut-être les accuserez-vous d'incliner avec excès à l'épicurisme. Car si la volupté n'est pas, suivant eux, l'unique élément du bonheur, elle en est un des plus essentiels. Et, chose singulière, ils invoquent, à l'appui de cette voluptueuse morale, la religion si grave et sévère, si triste et rigide. Ils ont pour principe de ne discuter jamais du bien et du mal, sans partir des axiomes de la religion et de la philosophie. Autrement, ils craindraient de raisonner d'une manière incomplète et d'édifier de fausses théories. Voici leur catéchisme religieux. L'âme est immortelle. Dieu qui est bon l'a créée pour être heureuse. Après la mort, des récompenses couronnent la vertu, des supplices tourmentent le crime. Quoique ces dogmes appartiennent à la religion, les utopiens pensent que la raison peut amener à les croire et à les consentir. Ils n'hésitent pas à déclarer qu'en l'absence de ces principes, il faudrait être stupide pour ne pas rechercher le plaisir par tous les moyens possibles, criminels ou légitimes. La vertu consisterait alors à choisir entre deux voluptés, la plus délicieuse, la plus piquante, et à fuir les plaisirs suivis de douleurs plus vives que les jouissances qu'ils auraient procurées. Mais pratiquer des vertus âpres et difficiles, renoncer aux douceurs de la vie, souffrir volontairement la douleur et ne rien espérer après la mort, en récompense des mortifications de la terre, c'est aux yeux de nos insulaires le comble de la folie. Le bonheur, disent-ils, n'est pas dans toute espèce de volupté. Il est seulement dans les plaisirs bons et honnêtes. C'est vers ces plaisirs que tout, jusqu'à la vertu même, entraîne irrésistiblement notre nature. Ce sont eux qui constituent la félicité. Ils définissent la vertu, vivre selon la nature. Dieu, en créant l'homme, ne lui donna pas d'autre destinée. L'homme qui suit l'impulsion de la nature est celui qui obéit à la voix de la raison, dans ses haines et dans ses appétits. Or, la raison inspire d'abord à tous les mortels l'amour et l'adoration de la majesté divine, à laquelle nous devons l'être et le bien-être. En second lieu, elle nous enseigne et nous excite à vivre gaiement et sans chagrin, et à procurer les mêmes avantages à nos semblables, qui sont nos frères. En effet, le plus morose et le plus fanatique zélateur de la vertu, l'ennemi le plus haineux du plaisir, en vous proposant d'imiter ses travaux, ses veilles, ses mortifications, vous ordonne aussi de soulager de tout votre pouvoir la misère et les incommodités d'autrui. Ce moraliste sévère comble d'éloges, au nom de l'humanité, l'homme qui console et qui sauve l'homme. Il croit donc que la vertu la plus noble et la plus humaine, en quelque sorte, consiste à adoucir les souffrances du prochain, à l'arracher au désespoir et à la tristesse, à lui rendre les joies de la vie, ou, en d'autres termes, à le faire participer à la volupté. Et pourquoi la nature ne porterait-elle pas chacun de nous à faire à soi le même bien qu'aux autres? Car de deux choses l'une, ou une existence agréable, c'est-à-dire la volupté, est un mal, ou elle est un bien. Si elle est un mal, non seulement l'on ne doit pas aider ses semblables à en jouir, mais encore on doit la leur enlever comme une chose dangereuse et criminelle. Si elle est un bien, l'on peut et l'on doit la procurer à soi comme aux autres. Si elle est un bien, pourquoi aurions-nous donc moins de compassion pour nous que pour autrui? La nature, qui nous inspire la charité pour nos frères, ne nous commande pas d'être cruels et sans pitié pour nous-mêmes. Voilà ce qui fait affirmer aux utopiens qu'une vie honnêtement agréable, c'est-à-dire que la volupté est la fin de toutes nos actions, que telle est la volonté de la nature, et qu'obéir à cette volonté, c'est être vertueux. La nature, disent-ils encore, invite tous les hommes à s'entraider mutuellement et à partager en commun le joyeux festin de la vie. Ce précepte est juste et raisonnable. Il n'y a pas d'individu tellement placé au-dessus du genre humain que la Providence ne doive prendre soin que de lui seul. La nature a donné la même forme à tous. Elle les réchauffe tous de la même chaleur. Elle les embrasse tous du même amour. Ce qu'elle réprouve, c'est qu'on augmente son bien-être en aggravant le malheur d'autrui. C'est pourquoi les utopiens pensent qu'il faut observer non seulement les conventions privées entre simples citoyens, mais encore les lois publiques qui règlent la répartition des commodités de la vie, en d'autres termes, qui distribuent la matière du plaisir, quand ces lois ont été promulguées justement par un bon prince ou sanctionnées par le commun consentement d'un peuple, qui n'était ni opprimé par la tyrannie, ni circonvenu par l'artifice.